Salut, bienvenue dans Alter Echo, l'émission de critique média et de contre-information. Après 2 mois de vacances bien méritées, nous revenons galvanisés. Nous, en réalité, vous avez remarqué qu'il y a une petite différence. En réalité, nous ne sommes que deux, les deux Nicolas les plus courageux, parce que Olivier a décidé de prolonger des vacances bien méritées. Alter Echo, c'est comme toujours le mercredi à 22h sur Radio Campus, mais l'horaire risque de changer plus tard dans l'année, on vous le dira un petit peu plus tard. La rediffusion, c'est toujours le vendredi à 14h. Et puis le site internet altereco/collectif.net. Il y aura pas mal de nouveautés dans les semaines à venir sur le site. Pour cette émission de rentrée, nous allons d'abord revenir sur l'affaire Danis Mag. Danis Mag est cet élu provincial du VLD qui touchait d'une insolation due à la canicule, a lancé cette idée choquante de fermer les parcs récréatifs aux gens dits de couleur. Son idée lui est venue après certains incidents qui sont intervenus dans un parc récréatif du Brabant flamand. RTL TVI a relaté ce sujet en plein été sous un angle favorable au député flamand, en lui laissant quasiment une tribune libre. En plus, les journalistes de RTL ne critiquent même pas les propos xénophobes de l'élu flamand. Mais tout ça, ce sera en première partie de l'émission. En deuxième partie d'émission, Nicolas, nous allons aborder le problème des brevets informatiques, et bien plus encore.
Absolument, Nicolas. Donc, en deux mots, il y a eu une manifestation d'informaticiens devant le Parlement européen ce lundi. Non, c'était la semaine passée, c'était ce lundi, c'était quand ?
Oui, c'était la semaine passée.
Et en fait, cette manifestation avait lieu pour s'opposer à une directive européenne qui devait être votée le 1er septembre, qui est reportée au 23 septembre, une directive relativement aberrante qui concerne... Enfin, j'ai essayé de le dire, que ça soit un peu clair, parce que c'est un sujet qui a l'air très technique, mais qui est en fait éminemment politique. C'est pourquoi on en parle ce soir. Il s'agit en fait de modifier la façon dont sont protégés les développeurs de logiciels informatiques. Jusqu'ici, et tant que la directive européenne n'est pas passée, les développements informatiques sont protégés par le système de copyright, c'est-à-dire que le développeur d'une idée qui élabore donc un logiciel, le logiciel est protégé, mais pas l'idée. On l'expliquera mieux plus tard.
Avec notre invité qui va peut-être présenter.
Ah oui, attends, je vais essayer de terminer cette histoire compliquée de brevets. Le projet de directive européenne avec les brevets va maintenant bloquer les idées, c'est-à-dire pas un logiciel fini, mais une idée. Pour vous donner un exemple, la barre de progression, par exemple, qu'on voit dès qu'on installe un programme, cette petite barre qui se remplit au fur et à mesure de l'installation, eh bien, il y a une firme qui a un brevet sur cette barre, et donc plus aucun développeur ne pourra l'utiliser dans un logiciel. Ou pour bien illustrer le concept d'idées brevetées, imaginons sur les inventions concrètes, c'est toujours le régime des brevets. Donc normalement, disons, tel type de piège à souris va être breveté. Eh bien, le brevet sur les idées va permettre de breveter tout type d'engin permettant de capturer des animaux. Donc le détenteur de cette licence empêche à n'importe quel autre fabricant de pièges d'en fabriquer un. Donc c'est un truc c'est une espèce de blocage définitif aux possibilités du développement informatique. Et ça va empêcher notamment de travailler les gens de ce qu'on appelle le logiciel libre, dont on a un éminent représentant ce soir, qui s'appelle Jens Ingo, et qui est l'initiateur d'un projet qui s'appelle All to All, et dont tu nous parleras tout à l'heure. Mais en deux mots, All to All, c'est quoi ?
All to All, c'est un projet de serveur indépendant, donc un fournisseur de services Internet associatif, ici à Bruxelles et en Belgique.
Donc l'idée, c'est d'organiser de manière professionnelle de l'Internet gratuit, enfin pas gratuit, mais très accessible.
Donc les participants, ils payent toujours une participation aux frais, mais cette participation, elle sert donc à payer donc toutes les charges que la mise à disposition de la bande passante, du hardware, donc quand il faut acheter des serveurs, occasionne. Et donc voilà en deux mots le
oui, c'est ça,
projet. Il est basé donc entièrement sur l'utilisation de logiciels libres. On n'utilise aucun logiciel commercial. Tous ces logiciels-là sont disponibles avec leur code source. Donc nous, on peut voir comment ces logiciels sont faits et on peut éventuellement les adapter, mieux les intégrer et les changer, si on veut.
C'est ça, on reviendra plus précisément là-dessus, mais on peut dire, vraiment pour faire très court, que All to All milite un petit peu sur Internet pour la diffusion du savoir un peu vers tous et de manière assez accessible financièrement. Mais avant de commencer d'aborder les deux sujets, RTL TVI, et puis ce sujet sur les brevets logiciels, on va écouter un petit morceau qui fait un hommage à un médium dont on ne parlera pas ce soir. On va parler d'informatique, on va parler de télévision, mais on ne va pas parler des imprimantes. Or, les imprimantes, c'est un médium formidable qu'on utilise beaucoup, qu'on respecte beaucoup malgré leur boulimie de papier. Alors, le morceau qu'on va écouter est assez rare. C'est fait par un groupe qui s'appelle Man or Astroman. Et j'ai un ami qui les a vus en concert. Il s'agit d'une imprimante qui vient seule sur scène et qui nous joue la composition qu'on va entendre tout de suite.
C'est pas mal révélateur. Hein.
Ouais.
C'est beau une imprimante quand ça fait du bruit, franchement. Voilà, et tu pourrais juste m'expliquer en deux mots comment on fait, en fait, on imprime un texte qui...
Vraisemblablement, ils ont travaillé avec un type d'imprimante, c'est spécifié dans le titre du morceau. Ils ont composé un texte en fonction de la musicalité de chaque caractère. Alors ils ont fait, refait, refait le texte jusqu'à ce que ça donne ce merveilleux morceau en stéréo pour ceux qui ont la stéréo chez eux. Nous, on l'a dans le casque, c'est assez bouleversant.
Voilà, ben comme prévu, nous allons d'abord revenir sur un sujet qui s'est déroulé cet été. Cet été, bon, on a beaucoup parlé de la canicule, on a beaucoup parlé des vaches à Bruxelles, on en parlera la semaine prochaine justement. Mais on a aussi parlé d'une affaire, une affaire qui s'est déroulée donc, dans un parc récréatif en plein Brabant flamand. Un parc où des jeunes clients se sont un peu interpellés et à partir de ça, il y a eu toute une polémique qui s'est créée, une polémique disant que il fallait interdire ces parcs récréatifs à certains types de clientèle. Et ces types de clientèle visées sont généralement des jeunes de couleur. Et l'idée a été émise principalement par un député VLD néerlandophone qui s'appelle Dennis Mac.
Tu dis généralement, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est en fait la clientèle qui était, comme tu dis, clientèle, qui a été précisément pointée du doigt par le conseiller régional dont tu vas parler. C'est lui qui a vraiment dit, dans Utlatste News notamment, la journaliste lui demande « Mais de qui vous parlez ?» Il dit des gens de couleur, on les reconnaît facilement, et tant pis pour ceux qui n'ont rien à se reprocher.
Oui, c'est ce que justement j'allais dire.
Dis-moi.
Donc, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, premièrement, c'est des incidents dans un parc récréatif. Face à ça, un député flamand réagit, Dennis Mac, du VLD, qui s'est distingué en déclarant, comme tu disais, que le problème venait justement de ces jeunes de couleur. Il a cité, donc, dans un article parlant de jeunes maghrébins. Et son idée, sa solution face à ce problème-là, c'était d'interdire, en fait, les parcs à ces jeunes-là. C'est-à-dire que c'est totalement discriminant, c'est-à-dire que c'est totalement choquant, c'est-à-dire que ça rentre aussi en contradiction avec les différentes lois, dont la loi Moreau. C'est surtout aussi la manière de résoudre un problème par une solution qui n'est pas du tout démocratique. Quoi qu'il en soit, les médias n'ont pas beaucoup réagi face à ça. Les quelques journaux qui en ont parlé ont relaté les faits sans véritablement...
Sans prendre position.
Voilà, ouais. simplement. Et je pense que la palme revient dans ce sujet-là à la chaîne de télévision privée RTL TVI, qui, le jour même de la déclaration de Danny Smack, le 12 août, faisait un petit reportage dans son journal télévisé de 19h.
Bonsoir et merci d'être avec nous pour débuter ce journal. Cette proposition étonnante d'un conseiller provincial flamand, Danny Smack du VLD, propose d'interdire l'accès au centre de loisirs aux non-belges. La semaine dernière, un groupe de jeunes a semé la panique dans une piscine en plein air de Diest. Selon le conseiller, c'en est trop, des mesures radicales s'imposent. Nicolas Boytard, c'est Pascal Noriega.
Véritable pavé lancé dans la mare, la proposition de Danny Smack visant à interdire l'accès aux domaines provinciaux aux étrangers n'a qu'un seul but. Forcer le dialogue et stopper une fois pour toutes les violences recensées dans les parcs du Brabant flamand.
Je me suis dit, on va interdire pour quelques jours l'entrée au domaine des jeunes immigrés pour un certain temps, avec le seul but qu'eux, ils discutent entre eux dans leur communauté pour mettre les choses au point et pour venir ou pour arriver à une solution qui nous convient tous, en fait, immigrés, non-immigrés.
Le conseiller provincial VLD l'avoue, ce n'est pas parce que quelques jeunes sèment le trouble qu'il faut interdire à tous les étrangers l'entrée des espaces publics.
Je ne dis pas que la solution que moi je propose doit être exécutée sur le terrain, mais parfois j'ai eu l'impression qu'il faut quand même parfois provoquer pour pouvoir avoir un début à une discussion qui est plus profonde.
Le domaine provincial d'Eusingen accueille plus de 3000 personnes chaque jour. Pour son directeur, cette éventuelle interdiction serait ingérable. Dans les faits, cette application est impensable. Il y a beaucoup trop de monde ici. Mais si la province le décide, alors je devrais me plier à la décision de la députation permanente. La semaine prochaine, la proposition de Danny Smack sera discutée au sein de la députation permanente de la province du Brabant flamand. En attendant, si certains domaines possèdent leur propre service de sécurité, ces gardiens n'ont reçu aucun ordre d'interdiction. Tout le monde peut donc encore accéder aux espaces publics.
Voilà, c'est le sujet qu'RTL avait fait justement à propos de ce sujet-là, ce sujet-là le 12 août, le soir même de déclaration.
Oui.
Voilà. Alors justement, après ça, Danny Smack a fait ses excuses. Il y a une dépêche belga du 16 août qui dit que il avait absolument pas voulu dire ça. Mais ce qui est finalement inquiétant, c'est que quand on écoute ce sujet, il y a plusieurs remarques qui nous sautent aux yeux, très globalement. D'abord, il n'y a aucune critique des propos de Danny Smack. Au contraire, le journaliste a été un porte-micro des propos de l'élu flamand.
Ah oui, parce qu'il dit, je veux pas, peut-être que tu es sur le point de le dire aussi, mais il dit clairement, avant qu'on entende l'élu flamand, cette déclaration n'a qu'un seul but, forcer le dialogue. Donc elle n'a pas, par exemple, pour fonction d'aller sonder dans les idées de l'extrême droite, etc. Tout ça, il donne tout de suite de très bonnes intentions à l'homme politique qui vient de faire une déclaration strictement scandaleuse. Quoi.
Voilà, scandaleux parce que quoi, il y a une dangereuse assimilation entre bandes de jeunes, immigrés, non-belges et délinquants, c'est-à-dire que tout est mis sur le même terrain. Ça semble logique, apparemment, dans l'esprit du journaliste même, que ces bandes de jeunes qui sont très rapidement désignés, sont apparemment délinquants. Donc c'est un peu faire le jeu du Front National aussi. Et puis il y a aussi la responsabilité des médias, c'est-à-dire que les médias qui se veulent objectifs ne l'ont pas été dans ce cas-là, en tout cas, parce qu'on ne laisse qu'un type d'interlocuteur qui intervient, le député en question, qui d'autre, le responsable d'un centre récréatif, mais il n'y a aucune parole laissée à ces jeunes, aucune parole laissée à une association antiraciste, au centre, par exemple, pour l'égalité des chances. Et puis, il y a une contradiction flagrante avec les lois antiracistes qui n'ont pas été soulignées dans ce reportage. Alors, par rapport à ce sujet-là, je vous propose d'écouter justement l'analyse et les propos de Pierre-Arnaud Perrouti, qui est donc juriste au MRAX. Le MRAX est donc le mouvement
contre le racisme
et l'antisémitisme et la xénophobie. On l'écoute, je l'ai rencontré dans la journée.
Oui, alors on ne comprend pas très bien d'où ça vient, effectivement, si ce n'est qu'un tout petit point d'histoire peut-être, c'est qu'il y avait déjà eu des propositions de Verhoeven, le ministre de la Justice à l'époque, qui est du même parti que Smack, de commanditer une étude entre la délinquance et l'origine des délinquants. Et donc, ce n'est pas la première fois que dans la bouche d'élus du VLD, on entend cette association un peu fumeuse entre jeunes d'origine immigrée et délinquance.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est déroulé dans la tête de Smack? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'a-t-il déclaré, en fait?
Alors, ce qui s'est passé dans sa tête, forcément, j'en sais rien. Ce que lui dit, c'est qu'il agit pour des raisons de sécurité. Donc, son objectif déclaré, c'est assurer la sécurité des centres de loisirs dans le Brabant flamand, ce qui en tant que tel est un objectif parfaitement louable. La seule chose, c'est que la solution qu'ils proposent pour y arriver, elle, est parfaitement condamnable. Alors c'est un peu particulier, on se demande pourquoi il a fait une telle déclaration, sans doute par esprit de provocation, parce que, en fait, de deux choses l'une, lui doit savoir que la proposition qu'il fait, c'est-à-dire interdire l'entrée au parc de loisirs aux jeunes d'origine étrangère, il n'est pas très clair par moment. Je crois qu'il a utilisé les termes « jeunes immigrés » ou « jeunes maghrébins ». Est-ce que ça vise des étrangers? Est-ce que ça vise des Belges d'origine étrangère? Tout ça entretient un flou parfait. Si ce n'est que ce qu'on comprend derrière, c'est qu'il vise en fait les gens de couleur et en particulier des gens nord-africains. Mais il doit savoir qu'une telle proposition est complètement illégale. Alors de deux choses l'une, ou bien il sait que c'est illégal et c'est un peu particulier dans la bouche d'un élu de proposer des choses illégales, ou bien il ne le sait pas et c'est tout à fait grave à mon avis qu'un élu ne sache pas qu'il y a une loi qui interdit ce genre de choses.
Ce sont en fait finalement des propos qui sont discriminatoires, qui sont tout à fait antidémocratiques et qui n'ont pas lieu dans la bouche d'un élu démocratiquement élu.
Ah oui, alors il faut distinguer deux choses. Si effectivement ce mécanisme est mis en place, il est directement contraire à la loi de 1981, la loi Moreau qui combat le racisme, et en tant que tel c'est illégal. Non seulement c'est illégal, mais c'est susceptible de sanctions pénales. Et en tant que tel, l'incitation à la discrimination est lui aussi répréhensible, non seulement par la loi de 81, mais par la loi récente de 2003 qui interdit les discriminations. Donc l'incitation à la discrimination aussi est condamnable, et on pourrait très bien soutenir que ce genre de propos constitue une incitation à la discrimination. Alors bien sûr, il va dire que c'était pas réel, que c'était simplement de la provocation. À ce moment-là, peut-être qu'on sort du champ juridique et qu'on entre dans le champ de la responsabilité morale ou politique, et que c'est totalement irresponsable de la part d'un élu de proposer ce genre de choses.
Concernant donc le traitement médiatique de ces propos, on constate par exemple un reportage, ce fameux reportage d'RTL TV qui a été diffusé le soir même dans la déclaration de M. Smag, qui est un reportage totalement étonnant, car le journaliste est un porte-micro de l'élu flamand.
Oui, c'est assez particulier sur ce reportage. Il y a plusieurs choses qu'on peut relever. D'une part, effectivement, qu'il n'y a aucun avis critique qui est émis de la part du journaliste d'RTL. Ils vont simplement rappeler la mesure qui est proposée. Ils vont faire une interview de SMAG. Ils vont faire une interview d'un directeur d'un centre de loisirs qui, en gros, nous dit techniquement, c'est difficile à mettre en place parce qu'il y a 3000 visiteurs par jour, mais si vraiment on m'ordonne de le faire, je le ferai parce que j'obéis aux ordres en bon fonctionnaire. Et la seule appréciation que RTL émet sur le projet, c'est le terme « étonnant », ce qui est effectivement pour le moins étonnant et est un peu court de la part de journalistes dont on serait en droit d'attendre qu'ils aient un minimum d'esprit critique et de sens critique des propositions qu'ils commentent et qu'ils rapportent auprès du grand public.
Ce qui est aussi très remarquable dans ce reportage, c'est qu'il y a un glissement sémantique entre bandes de jeunes, immigrés, étrangers, maghrébins. Tout ça est assez flou finalement.
Tout ça est assez flou et participe du même flou qu'entretient Denis Smag lui-même, évidemment, puisque dans le reportage, on entend d'abord parler de non-belges, et puis d'étrangers, et puis de jeunes immigrés. Or, tout ça n'est pas complètement sans lien, mais n'est pas du tout la même chose. On peut très bien être jeune immigré et belge, évidemment. Et quand Denis Smag vise des jeunes maghrébins, il ne précise pas du tout si ces gens sont belges ou pas. Et très probablement, ils le sont d'ailleurs. Ce sont des jeunes qui sont de la deuxième ou troisième génération, qui sont belges, qui sont nés en Belgique probablement, et qui donc simplement n'ont pas la même couleur de peau. Mais ce n'est pas une question de nationalité. On voudrait nous faire croire qu'il y a un problème de nationalité, que ces problèmes de sécurité sont liés à la nationalité. C'est évidemment pas le cas. Ça ne veut pas dire que parmi des jeunes belges ou non belges, il n'y a pas des gens qui ne respectent pas des règlements, qui peuvent avoir un comportement dangereux et qui doivent évidemment être recadrés, voire même pourquoi pas interdisent à l'endroit si vraiment ils posent problème, mais ça n'a absolument au départ aucun lien avec le fait qu'ils soient belges ou pas belges.
Est-ce qu'un reportage comme celui-là ne joue pas le jeu de certains partis d'extrême droite aussi ?
Moi je crois que tout ce qui entretient la confusion dans les termes entre dire jeune, immigré, jeune, allochtone, tout ce flou entretenu et ces espèces de mots tiroirs qu'on ne définit jamais vraiment, effectivement entretient une sorte de confusion dans l'esprit des gens qui est de dire jeune égale en fait jeune d'origine étrangère égale insécurité. Et ce lien permanent qui est entretenu directement ou indirectement entre jeunes issus de l'immigration, belge ou pas belge d'ailleurs, on ne précise jamais, et insécurité, fait le jeu de l'extrême droite, c'est certain.
Toujours concernant ce reportage, il y a aussi un choix très particulier des interlocuteurs choisis. Donc on choisit l'élu flamand, on choisit donc un patron de centre récréatif et c'est tout.
Effectivement, c'est un peu surprenant. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas excuser le journaliste d'RTL, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi comme ça. Est-ce qu'ils avaient des contraintes de temps qui ne le permettaient pas de faire autrement? Mais en tout cas, même dans le temps qu'il aurait imparti dans le cadre d'un JT, on sait que ce n'est pas très long, un JT, le minimum d'esprit critique, me semble-t-il, c'est effectivement d'obtenir une voix un peu contradictoire ou divergente ou qui peut poser une analyse dessus. Et les interlocuteurs ne manquent pas, même au mois d'août. Je pense qu'il y avait moyen de trouver des gens qui n'étaient pas en vacances, que ce soit dans les associations, que ce soit au Centre pour l'égalité des chances, que ce soit un avocat, que ce soit un animateur de quartier, que ce soit un des jeunes lui-même. Ça aurait peut-être été intéressant d'entendre ce qu'ils avaient à dire aussi. En tout cas, ça manque singulièrement d'esprit critique certainement et de volonté d'entendre des voix un peu discordantes.
Pour conclure, je vous demanderai quelle est votre réaction face à ce reportage.
Alors d'abord, peut-être une toute petite réserve, c'est que je n'ai entendu que la bande-son, donc je n'ai pas vu les images et que parfois les images peuvent dire beaucoup dans un sens ou dans l'autre, mais très probablement les images vont exactement dans le sens du son, donc ça j'imagine qu'il n'y a pas de discordance. Mais nous, ce que ça nous inspire au MRAC, c'est de se dire que c'est finalement assez dangereux de laisser ça en l'état, de livrer ça en l'état au grand public, dire simplement, laisser sous-entendre que finalement la seule difficulté, au-delà du fait que la mesure est étonnante, mais que la seule difficulté c'est d'ordre technique et que c'est difficile, mais que si vraiment la députation permanente l'impose, le fonctionnaire, le directeur de Zingen est prêt à l'appliquer, ça manque singulièrement d'esprit critique, et surtout ça nous fait dire que il faut pouvoir entendre d'une manière ou d'une autre expliquer aux gens quel est le problème que ça pose, parce que finalement cette question-là n'est pas du tout adressée. Alors je dis pas que... Bon, il y a des associations qui peuvent porter ce discours-là, il n'y a pas que des associations, il y a d'autres gens qui peuvent le faire, des avocats, des assistants sociaux, mais en tout cas, dans un reportage comme ça, dire simplement que cette proposition est étonnante, qu'elle pose peut-être des problèmes de mise en œuvre, sans dire qu'elle est foncièrement illégale et scandaleuse sur un plan moral ou politique, c'est beaucoup trop court, évidemment, beaucoup trop court.
Voilà, c'était donc Pierre Arnaud Perotti du MRAX. Une dernière chose par rapport à ces propos donc d'Anis Mack. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme pense encore intenter une action en justice. Elle devra en discuter donc d'ici la fin du mois de septembre. Donc nous reviendrons sûrement sur ce sujet-là d'ici la fin du mois.
Salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain.
Voilà, salut à toi des berruriers noirs, une bonne petite leçon de journalisme peut-être. Quoique, peut-être que les gyrophares à la fin du morceau sont un peu de mauvais augure, annoncent un petit peu les forces de l'ordre qui peuvent parfois briser une franche camaraderie entre les êtres humains, et puis peut-être les journalistes d'RTL-TVI aussi, de temps en temps. Bon, on va passer au second sujet de l'émission que j'ai essayé d'introduire un petit peu tout à l'heure. Je vais essayer de m'y reprendre. Donc, le Parlement européen risque de voter une directive sur les brevets logiciels le 23 septembre. Et cette directive revient à changer en fait les droits, le système qui protège les logiciels. Pour faire une analogie avec ce que sont les livres et la littérature à l'heure actuelle, les auteurs de bouquins sont protégés par un système de droit d'auteur. Eh bien, le système de brevets logiciels rapportés aux livres, ça viendrait pour un diffuseur de bouquins privés, par exemple, qui pourrait breveter le futur ou le passé composé qu'on utilise quand on rédige un texte. Et donc, tout à coup, non seulement on ne pourrait pas simplement faire du plagiat en recopiant son texte, mais on ne pourrait plus utiliser les temps qu'il a brevetés et les usages de syntaxe. C'est un petit peu ça que propose de faire le projet de loi qui va être présenté au Parlement européen le 23 septembre, mais en termes informatiques. Alors, comment ça se fait qu'un tel brevet de loi, un tel projet de loi qui non seulement ne profite à quasiment aucun développeur, si ce n'est à quelques grands groupes privés, et ne profite pas tellement non plus au marché européen, puisque la plupart des propriétaires de brevets sont Microsoft en l'occurrence, enfin sont des firmes américaines, à 80% je pense. Et donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui détiennent des brevets, mais qui en Europe ne peuvent pas les faire valoir. Si la directive passe, ils pourront les faire valoir, et en l'occurrence, ce seront surtout des développeurs nord-américains qui seront privilégiés. Donc, comment est-ce qu'un projet de loi aussi peu efficace en termes simplement scientifiques de développement de l'informatique et en termes de protection du marché européen, ce qui devrait être un souci de nos parlementaires européens, comment un tel projet de loi a pu exister? Eh bien, d'après la conseillère politique du groupe des Verts spécialisée, j'ai son titre exact, elle s'appelle donc Laurence Van de Waal, je l'ai interviewée pour nous parler de ce projet de loi. Elle est conseillère du groupe des Verts au Parlement européen en charge des nouvelles technologies. D'après elle, ce projet de loi résulte tout simplement d'un très beau travail de lobbying, notamment de Microsoft et d'autres firmes privées. Et voilà, elle nous explique en gros comment un tel projet de loi a pu émerger en dépit de tout bon sens dans cette petite interview, résultat d'une entrevue de la semaine passée.
Ça sert à une seule chose, le brevet logiciel, à dominer le marché avec tes brevets. Donc même si t'es nul, même si comme Microsoft tu fais un software pourri qui ne marche pas, qui est bourré de bugs, alors on met des patchs et puis ça croule quand même, enfin, un truc qui n'est en fait pas compétitif, tu nettoies le marché, il n'y a plus que toi sur le marché avec ton brevet. Comment est-ce que le brevet est une arme comme ça? Parce que un logiciel, donc je reviens à la question que tu ne brevettes en fait pas un logiciel de A jusqu'à Z. Tu brevettes des morceaux, tu brevettes des algorithmes. C'est un ensemble d'algorithmes, un logiciel. Tu brevettes ton petit morceau qui n'est pas encore breveté, petit morceau par-ci, petit morceau par-là. Et quand tu écris un logiciel, tu reprends toutes sortes d'algorithmes. Alors, il y en a peut-être qui sont nouveaux, mais il y en a beaucoup qui ont déjà utilisé parce qu'il y a des choses tout à fait évidentes. Donc, qu'une fenêtre s'affiche de telle façon ou l'histoire du brevet sur la barre de progression, c'est des choses qui aujourd'hui sont dans tous les logiciels. Donc, forcément, ce n'est pas du tout du plagiat. Tu réutilises des algorithmes qui ont déjà été utilisés, tout comme quand tu parles, tu utilises des mots, des constructions de phrases qui ont déjà été utilisées. Le savoir humain, c'est ce genre de savoir humain est tout à fait accumulatif, tu vois. Pour un développeur, pour un hacker, le brevet logiciel, ça le rend muet, ça le force au silence, ça l'empêche de développer des logiciels. Mais Bill Gates a dit dans une note interne qu'il y a un mémo interne à Microsoft qui a été divulgué, qui dit que sans le brevet logiciel, Microsoft ne se serait jamais développé. C'est évident. Avec le brevet logiciel, tu ne peux pas développer de nouveaux logiciels. Ou alors des logiciels de merde, puisqu'il y a des choses évidentes dans le logiciel que tu ne peux pas faire. Donc il y a l'exemple assez connu de... Bon, évidemment, j'ai oublié le nom, le Photoshop. Le Photoshop en libre, l'équivalent de Photoshop en libre, ne sait pas afficher la quadrichromie parce qu'il y a un brevet. Donc il existe en libre un logiciel qui fait la même chose que Photoshop, oh, beaucoup mieux, mais tu ne sais pas aller jusque la dernière étape parce qu'il y a un brevet sur une histoire de quadricomie quadrichromique, tu peux pas utiliser.
Imaginons qu'on utilise un truc sur lequel il y a un brevet. Bon. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, tu as un procès. Donc, toi, tu as un gentil petit hacker, tu développes un logiciel, tu veux le commercialiser, et tu reçois un jour une lettre de IBM. Monsieur, dans votre logiciel, vous utilisez tel et tel algorithme. Or, nous avons un brevet sur cet algorithme. Donc, on est vraiment gentil, on vous propose un arrangement à l'amiable. Vous allez nous payer 5 millions de francs belges. Toi, tu es un petit gars, tu lances ta boîte. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'arrêtes, tu ne peux pas, t'as pas les 5 millions, tu ne prends pas le risque d'un litige avec une grosse boîte, donc tu retires ton logiciel du marché. Imagine. 50% des propositions de loi de la commission sont écrites par des lobbyistes. C'est bien connu. C'est comme ça, tout le monde trouve ça normal. Tu ne fais pas écrire ton dossier par un lobbyiste, tu prends en compte les intérêts de la communauté économique européenne, s'il te plaît. Ceci dit, c'est une question compliquée parce que, par exemple, regarde, sur la question des droits de l'homme, on travaille, les Verts travaillent beaucoup avec Amnesty International. Ils sont bien Amnesty International, c'est des gens, tout le monde trouve ça bien, tu ne pourrais pas critiquer, ça c'est pas la même chose que Microsoft. En réalité, ça se passe exactement de la même façon. Tu travailles sur un dossier, tu es contacté par la personne chez Amnesty ou bien chez Greenpeace, par exemple, que sais-je, qui suit le dossier, il te dit « Ah, c'est vous qui faites ça ?» Ben justement, on a quelques propositions, il t'envoie les amendements tout faits, il t'envoie le projet de texte qui plairait à Greenpeace ou à Amnesty ou que sais-je, tout fait, toi, tu les mets. Dans ce cas-là, tu trouves que c'est mal. Quand tu travailles sur un texte, Greenpeace te fait un truc super. Et que Greenpeace a fait un truc super parce que Greenpeace a le temps, ils ont un gars qui fait que ça, quoi, tandis que le fonctionnaire, il fait des tas de trucs. Je ne dis pas ce que je pense, mais ce pense un député, lambda de droite ou un fonctionnaire lambda, il pense que le bien-être, c'est la croissance, parce que la croissance est porteuse d'emploi. Hein? Voilà, c'est tout. Donc pour eux, l'emmerdeur, c'est Greenpeace, parce que Greenpeace, à cause d'eux, peut-être les sociétés, elles vont délocaliser, parce qu'on va mettre des normes trop strictes en matière d'environnement. Et puis après, quand tu auras tous les chômeurs comme Écolo et la FN, par exemple, des trucs comme ça, tu vois, après, tu as les chômeurs contre toi, ils votent contre toi. C'est très ennuyeux. Voilà, je parle du lobbying au Parlement européen. C'est très ennuyeux pour un parti politique quand il est approché par un acteur économique majeur pour faire des amendements, pour modifier un texte qui va dans son sens. Et puis que le député ou le parti politique ne le suit pas, parce qu'après, ils sont accusés dans leur pays d'être contre l'emploi et la croissance. Si tu es par exemple finlandais, tu es un député finlandais, tu es contre le brevet logiciel, tu as Nokia qui vient chez toi et qui te dit « on vous demande de voter pour le rapport de Mme McCarthy parce que Nokia, pour survivre à l'échelle mondiale, a besoin du brevet logiciel », tu envoies Nokia chier. Qu'est-ce que tu as après dans la presse? Qu'est-ce que tu fais aux élections? C'est Écolo et Francorchamps, quoi. C'est très difficile de sortir de ça. Non, non, toi, tu penses que le bien commun, c'est Greenpeace, mais le bien commun, c'est la croissance, l'emploi et la productivité. Ça, on n'en sort pas de ça. C'est une socialiste anglaise, Madame McCarthy.
Elle s'appelle vraiment McCarthy,
oui. L'Office européen des brevets, depuis 1986, donne des brevets logiciels. En toute impunité et en toute illégalité, 30 000. Donc, la Commission fait un texte, d'une part, qui fait jeu de Microsoft et des intérêts américains, et d'autre part, elle légalise a posteriori le travail illégal fait par l'Office européen des brevets depuis 1986. Ça, c'est grave.
Et qu'est-ce qui peut pousser les fonctionnaires européens à pondre un texte aussi peu avantageux pour la plupart des Européens?
Bon, bah, d'une part, la pression des États-Unis qui est énorme, et du Japon, enfin, le Japon, ça a moins d'importance. Et d'autre part, la pression des gouvernements nationaux et surtout des administrations responsables des brevets dans les États membres et l'Office européen des brevets. Donc, ces gens se comprennent et marchent main dans la main. Ils travaillent dans leur intérêt et pas dans l'intérêt des gens.
Et au fond, si la directive n'avait pas été dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on aurait fait des 30 000 brevets accordés illégalement? On aurait pu tous
les
contester.
C'est ça aussi le problème, bien sûr, oui. Il faudrait les annuler.
Or, un brevet, c'est très cher.
Mais oui, parce qu'un brevet, c'est très cher. Ça coûte entre 1 et 2 millions de francs belges pour obtenir un brevet logiciel. C'est une procédure lente, longue. Il faut payer des experts. Il faut payer des droits d'inscription qu'il faut renouveler. Donc l'Office européen des brevets, d'ailleurs, s'enrichit avec les brevets, entre autres les brevets logiciels. Tu payes en partie ton avocat, le rédacteur de brevets et tout ça, mais tu payes aussi des droits d'inscription qui sont très chers pour ton brevet, que tu dois renouveler. Alors, tu vois, tous les 2 ans, tu payes quelque chose, et puis tous les... Bon, tu payes tout le temps, tu l'achètes pas une fois, tu crois que tu l'achètes une fois, mais tu passes ton temps à rendre des sous à l'Office européen des brevets pour garder ton brevet. Donc, c'est une administration très lucrative. C'est une administration qui n'arrête pas d'engager. C'est dingue. C'est inadmissible, parce que l'argent que l'Office européen des brevets gagne en faisant les brevets devrait aller à, je sais pas moi, à fonds communs, n'importe quoi, comme dans le... Dans le système belge, aucune administration ne peut gagner de l'argent. Donc si une administration, quelque part en Belgique, fait un bénéfice, elle doit reverser ça à une caisse centrale dont j'ai oublié le nom. Mais...
Et là, l'argent, il va où ?
À l'Office européen des brevets.
Qui peut le dépenser, pourquoi ?
Ils engagent, par exemple, ils n'arrêtent pas d'engager. C'est une socialiste anglaise, Madame McCarthy.
Elle s'appelle vraiment McCarthy,
oui. Le projet de directive aurait été rédigé par Microsoft. Je t'explique. Pour Richard Stallman et Eurolinux, c'est un gars qui s'appelle Francisco Mignorens, qui est le lobbyiste de la Business Software Alliance à Bruxelles, qui a joué un grand rôle dans la rédaction du texte. Microsoft fait partie d'une association professionnelle des producteurs de logiciels américains qui s'appelle la Business Software Alliance. Bon, il y en a des tas dans la Business Software Alliance, mais elle est évidemment... contrôlés par ces deux membres les plus puissants, Microsoft et IBM. Ils ont un représentant à Bruxelles, ils font énormément de pression depuis très longtemps pour le brevet logiciel. Donc quand enfin la commission se décide pour écrire ce texte, tu penses qu'ils ont leur avis sur la question et qu'ils vont gentiment proposer leur service à la commission et ils vont parler avec les gens de la commission. Ce qui est normal, les gens du libre ont aussi parlé avec la commission. On a vu aussi des versions du texte d'Hartmut Pisch, Richard Stallman, ils ont aussi des contacts avec la commission. Dans ces contacts avec la commission, les gens du libre ont vu l'évolution du texte, ils ont vu le texte de la commission, ils ont vu la proposition de texte de Microsoft, et ils ont eu un fichier informatique avec le texte de la commission finale. Enfin, pas tout à fait final, évidemment, mais proche de la dernière version, qu'ils ont analysé, puisque ces gars sont des spécialistes d'informatique, et d'ailleurs, ce n'est pas très difficile à faire, ils ont retrouvé des traces informatiques montrant que Francisco Mignorens avait participé à la rédaction du texte. Donc, le lobbyiste de Microsoft à Bruxelles a participé à la rédaction de la directive.
Et ben voilà, un petit peu accablant. Je pense que tu, Yann Singo, donc on vient d'entendre Laurence Van de Waal, conseillère politique au groupe des Verts au Parlement européen. Yann Singo, je pense que tu étais un petit peu impliqué dans cette manifestation et dans ce mouvement qui s'est mobilisé contre la directive. Il faut savoir que la directive, quand il y a eu une consultation auprès des citoyens européens, 91% des personnes consultées sont positionnées contre, ce qui n'a pas déboussolé les gens qui défendent la directive. Qu'est-ce qui t'a mobilisé dans la lutte contre cette directive ?
Bah écoute, moi j'ai trouvé surtout qu'on a essayé là de faire passer quelque chose, une décision en douceur, sans que ça va à la surface, sans que ça soit discuté dans les médias, dans le public. Et ça, c'était relativement choquant, cette manière de procéder. Mais je crois que la communauté du logiciel libre a bien réagi et elle a commencé à sensibiliser le politicien, ce qui a contribué peut-être déjà avant la manif à faire penser à certains politiciens d'éventuellement rapporter cette décision, parce que finalement il s'avérait que pas mal de politiciens ne disposaient pas assez d'aspects pour pouvoir juger la matière. Et donc finalement suite à cette manifestation, cette décision a été rapportée.
Et alors, tu viens d'utiliser un mot grave, logiciel libre, dont on n'a pas encore défini exactement les implications. En deux mots, quelle est la meilleure façon de définir le logiciel libre qui nous occupe ce soir à partir de maintenant ? Peut-être en le comparant à ce que tout le monde connaît, Microsoft et les logiciels commerciaux. C'est quoi l'informatique libre ?
Bon, un logiciel libre très connu, c'est par exemple le World Wide Web. Tout le monde connaît le World Wide Web. Donc, quand on surfe, quand on regarde des sites internet, on se trouve finalement sur une plateforme technologique qui est entièrement libre. Et c'est surtout cet aspect qui a contribué à la popularité que ces médias a aujourd'hui. Maintenant, un aspect très important du logiciel libre, c'est que on ne doit pas le confondre avec le domaine public. Il y a toujours un auteur, donc quelqu'un qui ou un groupe ou une communauté qui a développé ce logiciel, qui est donc son auteur. Mais cette communauté, elle se base sur le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur ici est quelque chose de très important.
Et qui se concrétise comment? Parce que par exemple, moi j'ai pu utiliser, j'ai trouvé facilement sur internet des players en logiciel libre où c'était totalement gratuit et c'est des outils même assez performants, complètement gratuits. Donc où est la reconnaissance de l'auteur?
Bah, contrairement à des droits d'utilisation accordés dans le cadre des licences traditionnelles, le droit d'auteur qui est utilisé pour les logiciels libres, c'est des droits à l'utilisateur. Donc l'utilisateur a un droit d'utilisation. Donc il ne doit pas spécialement demander à l'auteur pour pouvoir utiliser les logiciels. Il peut même prendre connaissance de la manière dont ce logiciel est écrit. Donc il peut reprendre certaines parties de ce logiciel et les réutiliser dans son propre logiciel.
Voilà, ça c'est une autre différence importante. On ne connaît pas les sources, c'est-à-dire les recettes qui font fonctionner les programmes de Microsoft. Microsoft garde ça caché, donc finalement l'utilisateur n'est pas impliqué dans comment fonctionne la machine qu'il utilise, alors que dans le logiciel libre, il y a l'accès aux sources. Et donc, théoriquement, il y a une espèce de partage des recettes et d'amélioration constante de ce qui fait fonctionner l'outil qui non seulement devient adaptable, performant, et en plus une espèce d'école pour son utilisateur.
Oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, on est un peu tous des victimes de cette idée du logiciel commercial qui garde secret la manière dont il est écrit, la manière dont il fonctionne même. On ne comprend pas très bien quand il y a un problème. On est souvent dans une sorte de situation ou d'attitude capitulative. On dit, voilà, à l'informatique, je ne comprends rien. Mais justement, c'est là quelque chose qui est voulu. Les éditeurs commerciaux de logiciels sont justement intéressés à ce que les gens ne comprennent rien à l'informatique. Avec les logiciels libres, c'est extrêmement différent. Là, pour une fois, c'est une réappropriation de la technologie, des nouveaux médias. Donc les gens ne subissent plus le nouveau média, mais ils peuvent le comprendre, ils peuvent le faire, ils peuvent devenir un acteur, ils peuvent devenir un auteur. Donc ils peuvent très bien commencer à s'impliquer, à devenir un émetteur.
Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu une petite pause musicale, là, puis... Ah, ça y est, petite pause musicale après ces beaux mots de Yen Singo.
san shi. Ich ni san shi. Ich ni san shi. Ich ni san shi.
Ah, mais ouais, c'était une fin brutale de ce morceau. Donc, pour terminer...
C'était Kraftwerk, fallait le dire.
Kraftwerk, la chanson s'appelle Numbers. Et on a entendu en effet une série de nombres. Pour terminer, on peut parler du projet dont Yann Singo, tu es l'initiateur. Bon, entre-temps, c'est devenu un collectif. Il s'appelle All to All. Et je l'ai appris ce soir, c'est grâce à cette initiative de nom de domaine, de serveur mis à disposition simplement au prix de fonctionnement, que Alter Echo peut encore avoir un site internet. Donc pour la petite histoire, le site d'Alter Echo au départ était chez Multimania. Il a été coupé pour des raisons obscures, mais on a peut-être adopté un ton à un moment donné qui ne correspondait pas tout à fait à la ligne commerciale de notre serveur. Et finalement, grâce à All2All et à collectif.net, donc le serveur qui héberge le site d'Alter Echo, eh bien, on peut éviter qu'il y ait lieu sur internet ce qui s'est passé dans le reste des médias. C'est-à-dire que vous savez par exemple qu'à Bruxelles, ou en Belgique en général, en termes de radio libre, ben, il reste très peu de choses. Il reste par exemple Radio Campus, que vous écoutez en ce moment, et qui est sauvé grâce au soutien de l'ULB, et bon, une espèce de chance, mais tout le reste est en train de disparaître. On n'a plus que des médias privés qui contrôlent évidemment le propos. On a des médias publics en télévision, mais relativement contrôlés aussi. Dans la presse écrite, c'est de plus en plus de monopoles, etc. Il aurait pu se passer exactement la même chose sur la toile s'il n'y avait pas eu le genre d'initiative comme All to All. Alors ça fait un peu gros coup de pub, mais c'est vrai qu'on peut vraiment être reconnaissant à ce genre d'initiative. Et en plus, je suis en état de choc puisque je viens d'apprendre. Je ne le savais même pas. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter plus précisément l'objectif et qu'est-ce qui vous a amené à organiser All to All? D'abord, qu'est-ce que c'est exactement All to All?
Bah écoute, au départ, c'est vraiment une initiative d'autodidacte. On n'était absolument pas des administrateurs de systèmes ou d'informaticiens extrêmement calés dans le domaine. On vient plutôt du domaine de la critique de nouveaux médias. Donc Moving Art Studio, au départ, c'est une association qui militait dans le domaine des arts électroniques. Ça s'articulait autour des conférences, d'expositions, d'événements dans le domaine des nouveaux médias. Mais on a vite compris que les contenus qu'on faisait véhiculer étaient des contenus relativement sensibles, parfois dérangeants aux personnes établies, aux fournisseurs d'accès traditionnels, par exemple. Et vite est venue donc l'idée de mettre en place un réseau internet qu'on gère nous-mêmes. Et vraiment, bas de couche, au niveau du routage, au niveau de l'accès, au niveau de la bande passante. Et donc, All to All, c'est un peu un premier élément, une première pierre dans quelque chose qu'on pourrait éventuellement un jour qualifier comme une sorte de bande passante alternative, indépendante.
C'est ça, et libre non seulement du contrôle du propriétaire, et en plus accessible, puisqu'on paye exclusivement les frais de fonctionnement, ce qui fait un prix. Tu peux donner un exemple, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on doit compter collectif.net ou altereco.collectif.net, ça coûte combien par an
Mais en fait, là, c'est une formule très particulière, parce que ce n'est pas un site, mais c'est collectif.net qui a carrément un serveur en hébergement. Donc c'est toute une machine qui est actuellement connectée par le biais de All to All.
Ah et voilà. Et j'avais des feuilles de questions, mais tu les as en main, mais c'est pas grave. On vient de parler de la directive de brevets logiciels. Je me demande si cette directive européenne devait être votée, si en effet tous ces brevets devaient acquérir une force légale, qu'est-ce que ça aurait comme impact par rapport au genre d'espace d'informatique libre que tu essaies de défendre?
Mais il y a déjà toute une série de brevets qui existent aujourd'hui, même en Europe, dans le domaine des logiciels. Ça, c'est quelque chose qu'on perd un peu de vue. Il existe des brevets, par exemple, sur certains algorithmes qui ont été considérés comme des inventions techniques, surtout dans le domaine de la cryptographie.
Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est plutôt que ce n'est pas une application complète qui est placée, protégée par un droit, c'est un algorithme, donc une tournure de phrase ou un temps ou une gamme en musique. Quoi,
oui, oui, tout à fait.
Qui empêche à n'importe qui de la réutiliser.
Tout à fait. Et donc, j'ai par exemple un logiciel de cryptographie pour mon courrier électronique. C'est quelque part, on peut comparer ça à une enveloppe. Quand on écrit une lettre, on met sa lettre dans une enveloppe pour un peu avoir une confidentialité lors du transit. Ici, un logiciel de cryptographie permet de faire la même chose avec un email qui, normalement, passe en visible comme une carte postale sur l'Internet, visible à tout le monde, à chaque administrateur de système, sur chaque serveur où il passe. Les personnes peuvent prendre connaissance du contenu de ton message. Et donc, j'ai généré une paire de clés avec un logiciel qui s'appelle Pretty Good Privacy en 97. Et ces programmes utilisaient des algorithmes de cryptographie qui étaient brevetés. Et donc aujourd'hui, comme je suis passé sous Linux, j'avais jusqu'il y a peu de temps encore des problèmes à récupérer mes anciennes clés parce qu'ils ne pouvaient pas être implémentés. Ces algorithmes-là, cette manière de faire ne pouvait pas être implémentée dans un logiciel donc, comme Linux, par exemple. Oui. Donc GNU Privacy Guard, qui est un peu l'équivalent de Pretty Good Privacy.
Donc tout à coup, tu ne pouvais plus relire d'anciens courriers et parce pouvais, que ce qui était ça, une enveloppe ouais. publique, quelqu'un te l'a prise des mains. Quoi.
J'ai dû chaque fois passer par les détours d'un système d'exploitation comme macOS pour pouvoir accéder à mes messages cryptés dans le temps. Par contre, je pouvais me régénérer une nouvelle paire de clés avec un autre algorithme. Mais voilà la difficulté. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Donc quelque part, on peut être privé de son contenu. Ces brevets, quelque part, représentent une atteinte à la libre circulation des informations. Et alors, quand on regarde un peu l'évolution de notre société, c'est justement une évolution vers une libre circulation des informations et non pas vers un blocage des informations.
Enfin, je trouve que, par exemple, en termes de presse écrite, moi, je ne serais pas d'accord avec cette analyse. C'est vrai que l'Internet offre peut-être encore cette chance, mais à l'heure actuelle, dans la presse écrite ou dans les agences de presse, les informations circulent dans des systèmes de rentabilité. Elles ne circulent pas pour leur valeur informative, mais pour leur valeur marchande. On n'y est pas encore tout à fait dans Internet, sur Internet, parce qu'il y a encore des espaces de quasi-gratuité, mais c'est vrai que ça pourrait tout à fait disparaître, puisque ce qu'il y a de particulier avec ces brevets, il y a en Europe déjà 30 000 brevets qui ont été déposés, mais qui n'ont pas encore force de loi, quoi. Ouais. Bah, imaginons que si chaque fois qu'un développeur du logiciel libre veut créer quelque chose, il doit consulter une liste de 30 000 brevets pour être sûr qu'il va en enfreindre aucun et se ramasser un procès. Donc, autant dire qu'à un moment donné, il ne peut plus travailler. Donc, est-ce que ça pourrait être, à terme, la disparition de projets d'Internet libre, d'informatique libre ?
Oui, tout à fait. Donc, il faut, comme tu dis, il faut avoir une armada d'avocats derrière soi pour pouvoir encore développer quelque chose dans le domaine du logiciel libre. Mais je voulais un peu revenir à ce que tu disais auparavant, donc avec la presse écrite, par exemple. Il y a aussi maintenant une presse écrite sur le net. Donc des revues en ligne qui se servent justement de ce mode de diffusion qui n'est plus spécialement basé sur un terme de rentabilité comme on le connaît avec la presse écrite où là ce sont des grands moyens dès qu'un quotidien est imprimé ça représente une somme colossale et donc il faut penser en termes de rentabilité. Donc il y a des initiatives comme Indie Media ou comme Usine
oui, Samizdat.net.
Oui, ou Samizdat. Il faudrait poser la question à Denis.
C'est vrai. C'est vrai, quand j'ai dit presse écrite, j'aurais dû dire presse papier, en fait. Parce que c'est vrai que, justement, sur l'Internet, il y a une espèce de bouffée d'espoir par rapport à la liberté de circulation des informations.
Oui. Et aussi Alta Echo. Je crois que vous avez aussi votre espace sur le
tout
net. Tout à fait. On peut écouter vos émissions.
Et donc,
quelque part, on a une sorte de libre circulation d'informations qui est extrêmement important.
Et est-ce qu'elle est menacée par cette directive de
Je crois que oui, très fortement. Parce que justement, pour pouvoir faire ce genre de travail, il faut disposer de d'outils, pour utiliser une métaphore que je trouve pas très réussie, qui permet de travailler. Et donc, par exemple, si on regarde un exemple comme le site de collectif.net, là, il y a ce qu'on appelle un logiciel de gestion de contenu en ligne. Donc, c'est une application sur Internet. Et si on commence à breveter certains éléments de cette application-là, ces sites pourraient être paralysés ou pourraient se trouver dans l'illégalité. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on remarque. Il y a pas mal d'associations qui sont militants, qui ont vraiment un contenu extrêmement louable, mais qui, au même moment, utilisent des logiciels propriétaires souvent piratés. Ça, c'est aussi une réalité dans laquelle on se trouve actuellement.
Évidemment.
Et alors, il y a un décalage de discours, quelque part.
Par rapport à ce combat, est-ce qu'on ne pourrait pas donner quelques adresses là, dans les derniers instants de l'émission ? D'abord, rappeler l'adresse de notre serveur dont on vient de parler, www.collectif.net, le site d'Altereco, Altereco avec ch.collectif.net, et le site de All to All pour des gens qui voudraient un hébergement libre.
Oui, oui. Donc c'est ALL. Le chiffre 2, ALL.org.
All2all.org.
Et là se trouvent aussi tous les prix, donc comme ça on ne doit pas parler.
Et alors, par rapport vraiment à la directive, moi j'ai trouvé une série d'informations à la directive sur les brevets dont on vient de vous parler. Si vous voulez en savoir plus, un site internet m'a paru particulièrement costaud. Dès que j'aurai retrouvé son adresse. Attendez.
Tu vas le trouver.
C'est avec F-I-I quelque part, ça ne te dit rien. Yann Singo, aide-moi. Enfin, si vous allez sur le site de all2all.org, je pense que vous allez être redirigé, ou sur le site de april.org. Voilà, j'ai retrouvé l'adresse. Allez sur swaptswapt.ffi.org. Vous allez avoir une série d'informations sur tout ce mouvement, parce que finalement, il y a une communauté impressionnante à travers l'Europe qui s'est mobilisée contre cette directive. Voilà, je crois qu'on doit terminer. Yann Singo, merci beaucoup.
Oui, merci aussi à Pete pour la technique. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, 22h sur Radio Campus.
Une émission entièrement consacrée à ces vaches qui sillonnent la ville.
Et puis, n'oubliez pas les rediffusions vendredi à 14h et le site internet, Nicolas, qui est altereco/collectif.
Mais non, pas slash point, mais on en a déjà énormément parlé. C'est pour la semaine prochaine.
Laura Lakin, Propaganda.
Now she will say to you, Lord, you are my sweetie girl. She makes you feel so good, like the best man in the world. But when you turn your back, take another truck. Propaganda can't help you now, cause you're getting sucked. Propaganda.